La nouvelle est assez inquiétante, franchement. Ça fait un peu apocalyptique, mais partons pas en peur, là, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ça s'appelle la sixième extinction. Donc, on serait rentré dans une espèce de phase de l'histoire de la planète, une phase critique, pendant laquelle de nombreuses espèces animales et végétales seraient sur le point de disparaître, à cause notamment du réchauffement de la planète. Et pour essayer de comprendre, on va aller rejoindre Robert Lamontagne, astrophysicien à l'Université de Montréal. Bonjour, M. Lamontagne.
Bonjour.
Là, on n'est pas là pour faire peur au monde, là. On veut juste comprendre. D'abord, une extinction, ça veut dire quoi, ça?
En fait, les extinctions de masse, ce sont des périodes au cours de laquelle, pendant une période relativement courte dans le temps,
oui.
Ça peut être quelques milliers d'années ou quelques centaines de milliers d'années, un grand nombre d'espèces, animales et végétales, disparaissent de la surface de la Terre.
Et on serait là-dedans, là. On serait dans un cycle comme celui-là.
C'est ça. Au cours des derniers 540 millions d'années, il y en a eu cinq importantes qui ont été documentées. Probablement que les gens sont très familiers avec la disparition des dinosaures. Mm-hmm. Alors, c'est la dernière en date là, de ces grandes extinctions de masse qui se seraient produites il y a 65 millions d'années, au cours de laquelle, bon, les dinosaures, mais aussi beaucoup d'autres espèces ont disparu. On estime qu'à cette époque, environ 75% du vivant sur notre planète a disparu.
Hein,
et puis, nous, on est les descendants du 25% restant.
Oui. Et qu'est-ce qui avait causé la destruction, la disparition définitive du 75%?
Alors, il y a plusieurs causes possibles pour les extinctions de masse. Dans le cas de celle des dinosaures, on est à peu près convaincu que c'est l'impact d'un astéroïde, donc un gros caillou d'environ 10 à 15 kilomètres qui a percuté notre planète il y a 65 millions d'années. L'impact s'est produit quelque part là, dans le Yucatan, là, au Mexique, et ça a eu des répercussions pendant des dizaines, voire des centaines d'années sur le climat, la température, l'acidité des océans. Et donc, à terme, ben, beaucoup d'animaux ont disparu. Les végétaux, ensuite les herbivores, puis évidemment ben, les carnivores par la suite.
Et alors, qu'est-ce que ça a eu comme impact, cet astéroïde? Est-ce qu'il y a eu un réchauffement de la planète ou un refroidissement? Comment cette vie a-t-elle disparu?
Il y a eu toute une cascade d'événements. Bon, évidemment, il y a l'impact lui-même, qui est extrêmement violent.
C'était comparable à, c'est quoi, 1 milliard de bombes atomiques?
Oui, c'est à peu près ça. On estime que ça a provoqué l'équivalent d'un tremblement de terre de niveau 13 à l'échelle de Richter. Et donc, quand c'est 7 et 8, là, ce sont des catastrophes très importantes. Alors, 13, c'est beaucoup plus important. On parle d'une vague, d'un tsunami provoqué par l'impact d'une vague de plusieurs centaines de mètres de hauteur qui avançait dans le continent nord-américain jusqu'au niveau de la frontière du Canada. On parle d'un impact au Mexique.
Une vague s'est rendue jusqu'au Canada?
Oui, c'est ça, exactement. Là, bon, évidemment, c'est pas toutes les terres qui ont été inondées, là, mais il y a eu des impacts jusqu'au niveau du Canada. Et puis là, ben, évidemment, on a eu un court hiver nucléaire. On a eu des feux de forêt très importants, presque à la surface de la planète, pendant les premières semaines. Ensuite, il y a eu l'équivalent d'un court hiver nucléaire, avec toute la poussière, la cendre, ça a bloqué la lumière du soleil. Donc, on a eu un refroidissement, puis ensuite, ben, évidemment, tous les végétaux ont disparu, ou une bonne partie, ce qui fait que la chaîne alimentaire de base s'est effondrée. Les végétaux, tous les herbivores, ou une bonne partie des herbivores, puis ensuite, ben, évidemment, les carnivores. Alors, les seuls survivants, c'était les espèces qui pouvaient s'adapter de petite taille, c'était les espèces de petite taille et qui pouvaient s'adapter à des environnements et à des sources de nourriture très variées, tout ce qu'on pourrait appeler les détritivores. Là, ceux qui mangent les cadavres, des choses comme ça. Il y avait quelques petites espèces de mammifères qui ont survécu, qui étaient très peu développées et qui ont pris leur essor à partir de ce moment-là. Et puis, ben, nous, on est les descendants de ces mammifères.
Mais c'est parce que on serait les descendants des
qui mangent les détritus.
Les détritivores.
Oui.
Ceux qui mangent
à peu près n'importe quoi, là, ce qu'on appellerait des omnivores, là, ils peuvent s'accommoder d'un régime assez large sans être trop, okay. Trop spécifique, là, trop fine bouche.
Okay.
Et donc, ces mammifères qui étaient peu ou pas développés à l'époque, les dinosaures dominaient la planète, ben c'est eux qui ont pris le relais. Ils ont eu l'occasion d'occuper toutes les niches écologiques devenues disponibles.
Et l'être humain est sorti de cette espèce de descendance.
Tout à fait. Alors donc, on a profité d'une extinction de masse pour prendre la place des dinosaures, là, 65 millions d'années plus tard. Et donc, dans l'article en question, on parle d'une nouvelle phase d'extinction. Et cette fois-ci, la cause, c'est nous. Réchauffement climatique, on occupe tous les écosystèmes, on rase des forêts pour l'agriculture ou même parfois même des monocultures, par exemple l'huile de palme dans plusieurs régions. Alors donc, on élimine comme ça des écosystèmes dans lesquels des espèces sont fragilisées et donc disparaissent. Et le taux d'extinction que l'on mesure actuellement est beaucoup plus élevé, beaucoup plus rapide finalement. Donc la vitesse à laquelle certaines espèces disparaissent, c'est plus rapide qu'à l'époque où les dinosaures ont disparu. Les dinosaures, ça s'est produit, l'impact a été violent, mais la disparition s'est échelonnée sur plusieurs milliers d'années par après. Alors que nous, là, à l'intérieur d'une quelques centaines d'années, on est en train de faire disparaître les deux tiers, les trois quarts des espèces animales sur notre planète.
Aïe, aïe. Et l'impact que ça va avoir, là, spontanément, là, les deux, trois impacts, mettons, les plus percutants, là, qu'une telle disparition aura?
À court terme, on s'en rend même pas compte. On est comme la proverbiale grenouille dans la marmite d'eau chaude, là, puis ça chauffe, puis elle s'en rend pas compte. Donc, à court terme, on s'en rend pas compte. Sur des échelles de temps de quelques centaines d'années, ben, la chute, la disparition de certaines espèces, c'est toute une chaîne. Hein? Les écosystèmes sont interreliés les uns avec les autres. Alors, ce sont des chaînes ou un jeu de dominos, si vous voulez. Donc, dès qu'il y en a un qui part, il y a un effondrement qui va aller en s'accélérant. Et le problème, c'est qu'on ne sait même pas combien il y a d'espèces vivantes sur notre planète. C'est estimé quelque part entre 5 et 30 millions. Et donc, évidemment, bon, on est familier avec les grandes espèces, les grands vertébrés,
les éléphants, les rhinocéros, les trucs comme ça.
Mais il y a beaucoup d'espèces de petite taille localisées dans des petits écosystèmes dont on ignore l'existence. On en découvre parfois à l'occasion comme ça quelques-unes au fil du temps, mais qui peuvent disparaître sans même qu'on ait eu connaissance de leur existence. Et dans le cas particulièrement des végétaux, des plantes, on peut faire disparaître des plantes qui potentiellement pourraient servir à fabriquer des médicaments.
Et voilà.
La plupart de nos grands médicaments, ils proviennent des plantes. Alors, il y a des espèces végétales qui disparaissent, dont on ignore l'existence, mais on les a fait disparaître, et qui pourraient être une cure à certains types de maladies. Alors, il y a quelque chose de dramatique et d'ironique en même temps dans tout ça.
Dans le papier d'Alain Labelle, on évoque même la possibilité qu'on soit obligé, à un moment donné, de prioriser les espèces qu'on voudrait sauver. Alors, ça se pourrait qu'à un moment donné, on se regarde puis on se dise, bon ben là, c'est devenu extrêmement critique. Il faut maintenant décider quelles sont les espèces qu'on laisse mourir et celles qu'on va essayer de sauver.
Oui, tout à fait. On le fait déjà en partie. Les parcs zoologiques, ce sont des réserves où on tente de préserver des animaux. On tente, par exemple, de sauver les pandas en Chine et à plusieurs endroits dans le monde parce que...
Les rhinocéros blancs ou noirs, là?
Oui, exactement. Donc, il va falloir faire des choix parce qu'on a pourra pas tout sauver. D'une certaine façon, on joue à Noé, finalement, comme dans le conte biblique, n'est-ce pas? On va tenter de sauver des espèces, et puis on fait de notre mieux. Il y a quelque chose de problématique, parce qu'on est un peu comme des apprentis sorciers là-dedans. On tente de sauver des espèces, mais est-ce qu'on va faire les bons choix, finalement?
OK. Ben écoute, on peut pas dire qu'on sort de cette entrevue-là très, très, très rassuré, mais il faut vraiment prendre l'habitude de conclure en disant qu'on peut encore agir. On peut les ralentir, éventuellement les arrêter et éventuellement renverser la tendance.
Tout à fait. C'est exactement dans la même lignée que le rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours, dans lequel on disait, ben oui, le réchauffement, il est là. Maintenant, on peut essayer de... Il y a des mesures de mitigation que l'on peut appliquer. C'est exactement la même chose. Et en fait, une bonne partie de l'extinction, elle est liée au fameux réchauffement climatique. Alors donc, si on pouvait agir sur le climat, on aurait, disons, une meilleure prise sur les impacts que l'on provoque.
Robert Lamontagne, astrophysicien à l'Université de Montréal. Merci.
Ça fait un plaisir. Au revoir.